Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons vu la dernière fois l'importance de vivre dans la charité. Je suis toujours à la recherche avec vous des moyens d'action. Et j'ai toujours dans l'esprit de répondre à la question « Que faire aujourd'hui ?» Vous vous rendez bien compte, je vous l'ai expliqué dans le premier sermon, je pense, sur ce sujet, vous vous rendez bien compte qu'il y a dans notre monde moderne une fièvre de l'action et que nous avons été plus ou moins contaminés par cette fièvre de l'action. Nous avons du mal à voir ce qu'est le chrétien. Et nous avons du mal à voir comment l'action est au service de la charité et de la foi. Je vous ai dit que la vie active était au service de la vie contemplative. L'action est au service de la charité et de la foi, et nous avons du mal à voir comment ces deux vies s'articulent. Aujourd'hui, je vais vous donner les principes de la morale. Qu'est-ce que la morale? La morale regarde les mœurs. En français, on dit les mœurs. Très souvent aujourd'hui on dit les mœurs, mais c'est une erreur de prononciation. Mon grand-père avait dans sa bibliothèque des livres sur les mœurs des animaux. Les mœurs des animaux, c'est le comportement des animaux, et particulièrement par rapport à leur instinct. Quand il s'agit des mœurs des hommes, il s'agit du comportement des hommes, donc vous voyez bien que nous nous rapprochons de la réponse à notre question « que faire ?», c'est-à-dire « quel doit être notre comportement ?». Il s'agit pour les mœurs humaines du comportement des hommes, mais évidemment pas par rapport à leur instinct. Alors, par rapport à quoi ? Par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, nos activités, par rapport à Dieu, ce que nous sommes par rapport à Dieu, nos opérations. Et puis, en dessous de Dieu, par rapport à nous-mêmes, par rapport au prochain. Saint Thomas d'Aquin et Monseigneur Lefebvre nous le rappelaient, dit qu'il y a trois manières d'aborder, de décrire, d'envisager la vie morale. La première, par les commandements. Les 10 commandements de Dieu, c'est simple, il y en a 10, ce n'est pas compliqué, mais cela n'exprime pas tout le côté positif de la vie chrétienne, et cela est très limité pour donner un enthousiasme dans la charité. Je sais bien que le premier commandement, c'est « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toutes tes forces et de tout ton esprit ». Malgré tout, si le principe est bien posé, et pour cause, puisque les commandements sont divins, il y a après cela toute une série de prescriptions qui n'entrent pas dans le détail de la noblesse de la vie chrétienne. Pourquoi les commandements? Pour les enfants. Les commandements ont été donnés au peuple hébreu, qui était encore un peuple dans l'enfance, en ce sens que il fallait lui apprendre à bien vivre, mais il n'avait pas encore reçu le Christ, et par conséquent, il y avait toute une partie, une élévation de la charité et de la contemplation à plus forte raison qui lui échappait. Les commandements sont tout à fait nécessaires, même après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord pour les enfants, parce que c'est simple. Tu ne voleras pas, tu ne taperas pas ta petite sœur, c'est le cinquième commandement qui dépend de ne pas taper sa petite sœur, parce que si on va trop loin, ben c'est le meurtre. Tu n'auras pas de désirs impurs volontaires, que sais-je. Tout cela, c'est très, très concret pour les enfants, pour les jeunes. Ce sont des points de repère faciles à concevoir, et cela les guide bien. Malgré tout, vous vous rendez bien compte que les deux commandements sur la pureté, par exemple, ne suffisent pas à donner l'idéal de la vie de famille. La deuxième manière de concevoir la vie morale, c'est par les vertus. Qu'est-ce que la vertu? C'est le bon comportement dans l'action humaine. Une action est vertueuse lorsqu'elle est conforme à la raison, et pour nous, conforme à la raison éclairée par la foi. Vous vous rendez compte là qu'il faut nécessairement faire des actes de raison. Quelqu'un ne peut envisager, ne peut juger le caractère vertueux ou non de son action que par rapport à un raisonnement. Parce que la loi divine ne lui dit pas quand il doit faire l'aumône, elle ne lui dit pas quand il doit être magnanime, ni quelle forme de magnanimité il doit avoir, elle ne dit pas au père de famille comment il doit exercer la force morale bien entendu, quelquefois la force physique aussi, c'est vrai. Il va falloir toute une réflexion du père de famille, par rapport à ses enfants, on n'exerce pas l'autorité de la même manière avec des enfants de 2 ans, de 7 ans, qui viennent de faire leur première communion, de 12 ans, qui approchent de l'adolescence, de 15 ans, de 18 ans, etc. Il va falloir mener une réflexion, à quel point en est mon enfant, vers où je le dirige, comment se comporte-t-il, comment va-t-il recevoir mon action, comment va-t-il en profiter. Et voilà pourquoi deux pères de famille différents, avec des enfants différents, vont dans des situations apparemment semblables avoir des comportements différents. On voit là la qualité de la morale des vertus, on en voit en même temps les limites. Les limites, c'est que, bien, justement, c'est l'avantage de la morale des commandements. Et les commandements, c'est simple, les vertus, c'est plus complexe. Il est évident que on ne pourrait pas définir la vie chrétienne ni par les commandements, ni par les vertus seulement, cela monte pas probablement assez haut. Si nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui certainement a observé tous les commandements et pratiqua la vertu, la caractéristique de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était qu'il était guidé par le Saint-Esprit. Or, tout chrétien est un autre Christ, et par conséquent, tout chrétien doit être guidé par le Saint-Esprit directement. Ce sont les dons du Saint-Esprit qui opèrent cela. Et les dons du Saint-Esprit, bien sûr, regardent une certaine élite, dons de sagesse, dons de science, de conseil, de piété. On est là au sommet de la vie morale chrétienne. Mais en même temps, on se rend bien compte de la difficulté de mettre cela en œuvre. Allons-nous devoir choisir? Deuxième partie de ce sermon, comment nous laisser guider par les commandements, comment nous guider par la vertu, comment nous laisser guider par le Saint-Esprit. Vous remarquerez tout d'abord, mes bien chers frères, qu'un enfant de 7 ans qui prépare sa première communion, même si on applique surtout les commandements pour diriger la vie, on lui donne malgré tout déjà une formation par rapport à la vertu. On lui demande d'être généreux, on lui demande de prier pour les pécheurs, Notre-Dame de Fatima, on lui demande de ne pas se contenter des prières obligatoires, etc., etc. On va même déjà lui donner un début de formation par rapport à la vie mystique, et même si le Saint-Esprit ne dirige pas totalement sa vie, malgré tout, on lui rappelle, avec la confirmation, ne serait-ce que cela, que le chrétien est entre les mains du Saint-Esprit, doit se laisser mouvoir par le Saint-Esprit, et on lui donne déjà des aperçus sur la beauté des mystères, sur le caractère souverain de la foi. Et d'ailleurs, certains enfants y répondent pleinement, puisque vous avez des enfants qui ont la vocation à 7 ans, j'en ai connu, voire même à 2 ou 4 ans, par exemple, comme le père Bariel, Sainte Rose de Lima. Nous connaissons des enfants, on vient de me signaler un exemple, qui, pas encore baptisé, fait sa prière tout seul, à 7 ans, dans sa chambre. Certainement, pour lui, le Saint-Esprit est venu le voir, et le Saint-Esprit agit déjà dans son âme, avant même qu'il soit baptisé, ce qui prouve qu'il doit avoir déjà au moins le baptême de désir, au moins implicite. Il n'y a donc pas, on n'a pas à se cantonner dans la morale des commandements, ou celle des vertus ou celle du Saint-Esprit. C'est plutôt une prédominance. De même, celui qui vit dans la morale des vertus, et en principe, ce sont tous les adultes bien formés, le secours des commandements leur est encore précieux, et la vie du Saint-Esprit, qu'on appelle une vie mystique, mais mystique ça fait grand mot, et très spécial, ça fait un peu peur, ça n'est pas pour nous. Alors parlons de l'action du Saint-Esprit. Il est évident que le Saint-Esprit agit dans l'âme. On le voit dans les épreuves actuelles de l'Église, combien vous avez de fidèles qui, sous l'action du Saint-Esprit, ont su répondre à des curés modernistes, à des évêques modernistes, ont su fonder des chapelles, établir des écoles, prendre une autonomie, une initiative que la hiérarchie ne favorisait pas, et ils ont été vraiment dans les mains du Saint-Esprit. Enfin, vous avez ceux qui vivent de la morale du Saint-Esprit, Saint Thomas d'Aquin dit qu'ils sont peu nombreux. Ce sont même pas tous les religieux. Qu'en est-il pour nous? C'est la troisième partie et la conclusion de ce sermon. Qu'en est-il pour nous? Tout d'abord, voyons l'importance de ces trois manières de pratiquer la morale. Les commandements nous donnent des repères simples qu'on ne peut pas transgresser. Pourquoi ne peut-on pas les transgresser? Parce qu'ils sont l'expression de la sagesse de Dieu. Et là, je voudrais vous faire une observation. Personne ne songe à sortir d'une pièce, de la maison, en traversant le mur. Et si, par malheur, vous avez été enfermé, que vous soyez en prison, ou bien que les portes, les fenêtres, les volets soient fermés, personne d'entre vous ne cherche à foncer en donnant des coups d'épaule à travers le mur. Sauf si vous avez une cloison en placoplâtre, mais derrière vous aurez un mur qui, lui, n'est pas en placoplâtre. Et parce qu'il y a une impossibilité physique. À côté de cela, quand il y a une impossibilité morale, c'est-à-dire que Dieu a dit non, ceci n'est pas possible, ceci n'est pas permis, eh bien, hélas, facilement, l'homme cherche des accommodements et cherche à traverser les transgressions de Dieu, alors que c'est un mur moral, il cherche à franchir le mur. Et nous devrions pourtant savoir qu'un mur moral doit plus encore être respecté qu'un mur physique. Parce qu'après tout, si vous êtes enfermé dans une maison en feu, que vous avez la chance d'avoir une masse, vous allez taper avec la masse sur le mur de manière à pouvoir le traverser. Parce que les choses physiques ne correspondent pas toujours à la sagesse rationnelle. Quand il s'agit de Dieu, les commandements de Dieu sont tellement élevés qu'ils correspondent toujours à la sagesse de Dieu. Jamais un commandement n'est contraire à la raison. Et vous allez me dire, mais si je dois mourir pour respecter les commandements? Et ça, je l'expliquais souvent aux infirmières de la CIM à la belle époque, lorsqu'elles me consultaient sur les cas de morale. Vous avez des cas dramatiques, vous avez une mère de famille qu'on pourrait sauver, mais en faisant un péché. Vous avez un enfant qu'on pourrait sauver, mais en faisant un péché. Par exemple, on pourrait sauver la mère de famille en tuant l'enfant. Vous avez d'autres cas dramatiques qui se présentent en médecine, et on pourrait être tenté de se dire, bien, je pose l'action physique, et puis tant pis pour le problème moral. Et je disais toujours à ces infirmières, n'oubliez jamais la providence de Dieu. C'est la providence qui a voulu que cette mère de famille se trouve dans cette situation. Et de même que la providence rappelle à elle, c'est-à-dire au moment de la mort, des mères de famille à 90 ans, d'autres dans un accident de voiture, d'autres dans une maladie à 35 ans, il arrive que la providence choisisse de rappeler une mère de famille à elle dans des conditions de fidélité à son devoir. Que le meurtre de son enfant, elle refuse le meurtre de son enfant et elle mourra peut-être. Et peut-être même que l'enfant mourra aussi. Et c'est la providence. Et il y a une sagesse de Dieu. Et cette sagesse nous dépasse. Et ce qui est très important dans les commandements de Dieu, c'est qu'ils nous mettent sur la voie de cette sagesse. Même si nous ne comprenons pas tout, notre comportement sera conforme à la sagesse de Dieu et nous aurons la possibilité de comprendre cette sagesse de Dieu et lorsque nous aurons progressé, de nous dire « Ah ben oui, c'est vrai, c'était cela, maintenant je comprends pourquoi le bon Dieu ne m'avait pas permis de le faire. » La morale des vertus est très importante, et j'allais dire surtout à notre époque, où les rappels de la loi ne se font plus avec autant de clarté de la part de la hiérarchie ecclésiastique. Si nous voulons avoir des enfants libres, et Dieu sait si la liberté est importante, nous devons avoir des enfants vertueux. Un enfant libre est un enfant qui se guide par sa raison, par sa liberté, mais la liberté c'est la raison, qui se guide par sa raison, la raison éclairée par la foi, bien entendu, la raison nourrie par la charité, bien entendu. C'est un enfant qui se guide par sa raison et qui, par conséquent, sait analyser son comportement, voir son comportement par rapport à la foi, par rapport à la charité, telle que la raison le lui montre. Il est d'autant plus important aujourd'hui de former à la vertu que, comme je vous le disais, les repères habituels sont oblitérés, offusqués. La morale du Saint-Esprit est-elle pour nous ? Oui, bien sûr. Nous nous trouvons dans des situations tout à fait extraordinaires dans lesquelles le Saint-Esprit va nous mener. Très souvent, lorsque je parle de faire la volonté de Dieu, on me pose la question « C'est bien joli tout cela, monsieur l'abbé, mais comment connaissons-nous la volonté de Dieu ? Comment savons-nous ce que Dieu attend de nous ?» Par les commandements, c'est très simple, nous savons que nous n'avons pas le droit de tuer, nous n'avons pas le droit de désirer la femme du prochain. Par la vertu, nous savons que nous devons être généreux, pieux, prudents. Et par le Saint-Esprit, nous savons ce que nous avons à faire dans des situations tout à fait extraordinaires. Il n'y a pas que Mgr Lefebvre qui a eu à prendre des décisions et à poser des actes extraordinaires dans les épreuves actuelles. Nous aussi, nous avons à le suivre. Nous aussi, nous avons à poser des décisions. Nous avons à voir combien la situation a changé extérieurement depuis Monseigneur, et nous avons à réfléchir comment nous allons être fidèles au Saint-Esprit. Dans cette révolution terrible qui est en train de déferler sur nous. D'où l'importance de prier le Saint-Esprit. Et la deuxième partie de cette conclusion, c'est celle-ci. La première partie, donc, c'était ne négliger ni l'une ni l'autre des manières de concevoir la vie morale. Et la dernière partie, c'est cultiver les trois manières de vivre la vie morale, cultiver les commandements qui sont une base, cultiver la vertu, cultiver les dons du Saint-Esprit. La vertu, avec l'exemple que je vous ai donné sur les commandements, la vertu a quelque chose quelquefois d'un petit peu qui peut nous paraître un petit peu aveugle. Déjà pour les commandements, on n'arrive pas à voir pourquoi telle mère de famille ne pourrait pas être sauvée, sa vie ne pourrait pas être sauvée sous prétexte qu'on n'a pas le droit de tuer son enfant. Surtout, quand l'enfant risque de mourir lui aussi, on se dit, après tout, mieux vaudrait un plutôt que deux. Il y a quelque chose qui nous paraît... nous sommes aveugles un peu pour comprendre ces choses-là. À bien plus forte raison quand il s'agit de la vertu. Où cela nous mène-t-il ? Pourquoi est-ce tellement important ? Pourquoi tel acte fait sans vertu est mauvais ? Tel autre acte absolument semblable, extérieurement fait avec vertu, est bon. Pourquoi la prière, oh, on le comprend bien, la prière d'un orgueilleux est mauvaise, la prière d'un homme humble est bonne. Enfin, il y a des situations où les choses sont quand même moins claires. Et c'est là que la foi a son importance. Nous devons cultiver la morale de la vertu justement pour nous élever au-dessus de nos considérations purement humaines, purement matérielles, purement immédiates. Nous devons nous régler par la raison, et c'est vrai que c'est un effort. Un effort qui, de nos jours, est rendu très difficile à cause de tout l'audiovisuel, à cause de toutes les télévisions, à cause d'Internet, à cause des journaux illustrés, à cause de même si vous n'êtes pas abonné à Paris Match, c'est pas mieux. Nous sommes dans le visuel, nous sommes dans l'immédiateté, nous sommes dans l'efficience, l'efficacité. Et il faut monter au-dessus de cela. Et la vertu nous fait voir la beauté de... Oui, la beauté de la vie chrétienne. Quant à la morale du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas la cultiver directement puisque nous n'avons pas la main sur le Saint-Esprit. Nous ne pouvons la cultiver qu'indirectement, et ceci de deux manières. Tout d'abord par la prière, supplier le Saint-Esprit d'agir en nous, et deuxièmement, en lui étant fidèle, car plus nous sommes fidèles au Saint-Esprit, plus il agit en nous, plus il pénètre profondément, plus il élève notre âme, plus il est libre. Tandis que si nous le contristons, comme dit saint Paul, même si nous le contristons légèrement, le Saint-Esprit ne peut plus agir, puisqu'il faut une totale disponibilité de nous-mêmes entre les mains du Saint-Esprit pour qu'il puisse agir. Et il n'y a pas que le péché mortel qui chasse le Saint-Esprit. Le péché véniel de propos délibérés a quelque chose d'un péché contre le Saint-Esprit. C'est le péché véniel de propos délibérés, faire un péché véniel exprès, sachant que c'est un péché véniel, et en se disant, après tout, ça n'est que véniel, ça n'est pas grave, cela pose un obstacle presque radical à l'action du Saint-Esprit dans nos âmes. Et comme la Providence a voulu que dans certaines situations, les commandements nous suffisent, comme elle a voulu que dans certaines situations, nous dussions monter au niveau de la vertu, elle veut également nous mettre dans certaines dispositions, dans certaines situations, pardon, dans certaines circonstances, où seule notre fidélité au Saint-Esprit permettra de nous en sortir correctement. Et c'est pas nous qui en avons le choix. Il ne faut pas dire que nous ne serons jamais dans ces situations un peu extraordinaires, certainement, mais tout à fait réelles. Vous avez le choix de la vocation, vous avez... le choix d'une épouse, quelquefois, qui suppose une action du Saint-Esprit, surtout de nos jours, et on pourrait donner beaucoup d'autres exemples. Celui qui n'aura pas fait attention à laisser toute la place au Saint-Esprit et à permettre au Saint-Esprit de se développer en lui, dans ces situations peut-être extraordinaires, mais qui arrivent, n'aura pas les moyens de s'en sortir correctement, car les commandements et la vertu ne suffiront pas. Inutile de vous dire, mes bien chers frères, que nous sommes aujourd'hui souvent dans cette situation où nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Je vous ai dit, en plaisantant, et j'espère que cela a été bien compris, qu'aujourd'hui, chaque père de famille est un évêque. Je pourrais presque dire qu'aujourd'hui, chaque laïc est un évêque. Autrefois, l'évêque nous était imposé par le pape et nous n'avions pas le choix, et l'évêque nous donnait notre curé. Aujourd'hui, c'est chacun d'entre vous qui devez choisir le prêtre auquel vous ferez confiance et l'évêque auquel vous accorderez votre confiance. Ce n'est qu'un exemple, mais ce n'est pas le seul exemple aujourd'hui. Demandez à la Sainte Vierge, qui est l'épouse du Saint-Esprit, qu'elle vous donne le Saint-Esprit en abondance, et il est évident que le Saint-Esprit passe beaucoup par la Sainte Vierge pour agir en votre âme, et demandez à la Sainte Vierge qu'elle vous enseigne une très grande fidélité au Saint-Esprit, comme elle en fait preuve elle-même lors de l'Annonciation. « Je ne suis qu'une servante, je suis la servante du Seigneur, que voulez-vous que je vous réponde d'autre, si ce n'est que soit accompli, soit fait, fiat, la parole de mon maître, puisque je ne suis qu'une servante. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »